accouplement d'une femme et d'un homme pour le profit d'un maître. C'est la femme qui a murmuré ou crié « Mangez-t'es, pas fait yiche, poule esclavage ».
Identitèse. Le podcast qui aborde
la complexité de l'identité antillaise.
Bienvenue dans Identitèse, épisode numéro 3. Nous espérons que l'épisode 2 vous a plu. Aujourd'hui, attention, on rentre vraiment dans le vif du sujet, esclavage et colonisation. Je suis toujours Adeline et je suis toujours accompagnée de mes deux acolytes, Michel.
Allô tout le monde.
Et Jordi.
Allô tout le monde.
1502 et 1493. Ce sont les dates auxquelles Christophe Colomb a découvert la Martinique et la Guadeloupe. Alors, on nous dit qu'il les a découvertes, puisqu'il était en exploration, mais il n'en a pas encore pris possession. Possession entre guillemets. Et c'est en 1635 que la Martinique devient la première colonie française établie, et elle fut établie par Pierre Bellin d'Esnambuc, je ne sais pas comment on dit et je m'en fous, tandis que la Guadeloupe, la même année, elle sera colonisée officiellement par la Compagnie des îles d'Amérique. Alors, retenez bien le nom Compagnie des îles d'Amérique. C'est une compagnie qui fut dissoute en 1664 et ensuite, en fait, à l'issue de la dissolution, donc les colonies tomberont sous administration française, enfin, elles seront sous l'autorité directe, en fait, du roi de France à l'époque, qui était Louis XIV. Mais je voudrais vraiment insister sur le mot « compagnie » parce que, pour moi, ça montre vraiment à quel point la colonisation était purement commerciale, en fait, qu'il y avait toute une idée de commerce en arrière de ça. Et très sincèrement, moi, je ne savais pas qu'il y avait la Compagnie des îles d'Amérique. Donc, c'est quelque chose qui m'a choquée parce que c'est comme si on vous dit que, je ne sais pas, une grande entreprise comme Google ou Microsoft, demain, va juste s'emparer d'un territoire pour en faire du commerce et par la suite de l'esclavage, enfin la traite négrière. Et je trouve ça très intéressant de, en fait, finalement, que la colonisation soit une histoire finalement juste de richesse, et de commerce. Et d'ailleurs, quand on vous apprend l'histoire, on vous parle de commerce triangulaire. On insiste sur ce terme. Moi, c'est un terme dont je me souviens vraiment. Enfin, c'est quelque chose que j'ai retenu depuis l'école. Parce que on insiste vraiment sur le fait que c'était un système révolutionnaire, le commerce triangulaire. Attendez, on exploite des richesses d'un territoire que l'on fait partir sur un autre territoire. Et finalement, en fait, c'est juste les prémices de l'import-export, du commerce international et du capitalisme. Donc, voilà la petite introduction de l'épisode. Je vous préviens, on a énormément de choses à dire parce que c'est juste une période, comme vous le savez, déjà qui a duré longtemps. On parle de siècles et de siècles. Mais en plus, c'est une période pendant laquelle il s'est passé énormément de choses qui ont eu des effets évidemment traumatisants sur nos ancêtres, mais également sur nous. Et ça, je pense qu'on a tendance à l'oublier ou on veut juste pas se l'avouer. Mais les aspects de traumatisme psychologique, physique et tout simplement en fait de comportement, je pense que c'est très important de les aborder, d'en discuter et surtout en fait de réaliser que tout ce qui s'est passé derrière, donc la traite négrière, l'esclavage, etc., vient juste d'une envie de s'enrichir, de s'en foutre plein les poches et juste en fait d'aller chercher des ressources, du sucre, comme on dit, tout ça, en fait, tout ça pour du sucre ou du tabac, ou enfin voilà, mais tout ça pour ça, quoi. Donc voilà, je vais laisser mes acolytes prendre la parole parce que moi, il y a trop de choses à dire là-dessus.
Wow, belle introduction, Adeline. Comme tu dis, il y a tellement de choses à dire, je ne sais même pas par où commencer. Je crois que je vais commencer par le fait que tu aies rappelé les dates, et ça, je trouve ça vraiment important. Et par rapport à, si vous avez pu écouter l'épisode qu'il y avait juste avant, j'avais donné une référence sur « The Lies My Teacher Told Me ». Et justement, il y a un extrait où il dit que lui, qu'on lui a rapporté l'esclavage, on a l'impression que c'était, il dit une cause, je ne pense pas qu'il y ait une traduction en français pour ça, mais c'est pour dire qu'on lui a présenté l'esclavage comme quelque chose qui était déjà là, et puis qu'en fait, les Européens se sont juste servis de ce système esclavagiste qui était là, sans remettre toute l'intention qu'il y avait derrière, de faire du commerce, comme tu dis, de faire, on a essayé d'aller là-bas et d'exploiter les sols avec des personnes de France qu'on ne voulait pas, par exemple, comme les Bretons. On les a envoyés en Martinique travailler la terre, sauf que, n'étant pas habitués au climat, ils ne résistaient pas. Et là est venue l'idée, prenons des gens où il y a le même climat. Et puis là, on a dit, l'Afrique noire, c'est le même climat, la végétation est similaire, et puis ils vont être résistants à ça. Donc on va les prendre et puis on va les mettre sur une île et puis ça va nous créer de la richesse. Donc j'apprécie comment tu as introduit. Je pense que je vais partir avec ça pour commencer. Parce qu'il y a vraiment énormément de choses, et surtout sur la partie traumatisme collectif, et puis comment... je sais même, je vais pas dire comment, mais on va essayer de montrer qu'en fait, c'est un travail de longue haleine, c'est ce qu'on dit, mais pour se créer une identité à travers tous ces traumatismes-là qui ont été créés, à travers tout... ces comportements qu'on induit juste un système commercial, comment travailler son identité par rapport à ça? Donc, je m'arrête là pour commencer, je te laisse la parole, Michel.
Merci beaucoup, Jordi. Merci, Adeline, pour cette introduction. Concernant l'aspect commercial, j'aimerais juste faire référence à un auteur que j'ai déjà eu l'occasion de parler, notamment sur mon blog. Il s'appelle Eric Williams. C'est le tout premier ministre de Trinité et Tobago. Et à partir de sa thèse, il a écrit un essai qui s'appelle « Capitalisme et esclavage » où il va faire une analyse de l'histoire économique anglaise. Et il va faire en fait un lien avec la traite négrière. Il va démontrer comment la traite négrière a permis l'avènement du capitalisme en Angleterre. Et donc ça démontre encore une fois comment la traite négrière et toutes les conséquences qu'on connaît jusqu'à maintenant, à quel point la traite négrière a un impact sur notre modèle économique actuel tel que nous le connaissons aujourd'hui. Il est clair que beaucoup de personnes, que ce soit les médias ou autres, font fi de cette histoire, de cette partie de l'histoire de l'humanité. Mais à mon sens, je crois que c'est très important de venir rappeler les faits, surtout que, par exemple, M. Williams, s'il ne parle pas dans les élucubrations de son esprit ou il n'invente pas des choses, il parle vraiment sur la base de données concrètes pour déterminer en quoi, justement, la traite négrière a un impact sur le capitalisme et justement l'enrichissement des pays occidentaux qui ont participé justement à la traite négrière, à la colonisation. Donc il y a déjà ce point-là. Il y a un autre point sur lequel je voulais, une autre référence aussi que je voulais aborder, c'est dans toute cette histoire de colonisation, etc., c'est important de regarder un peu, de faire une analyse comparée entre le colonisateur et le colonisé. Et Albert Memmi, en fait, qui est décédé il y a de ça quelques temps, lui, il a eu l'occasion d'écrire un essai, donc ça s'appelle « Portrait du colonisateur et portrait du colonisé ». Et lui, en fait, il va donner justement un portrait très détaillé sur comment on perçoit le colonisateur et comment on perçoit le colonisé. Et je trouve d'ailleurs que c'est vraiment une référence, un livre à lire aussi. Justement, j'ai eu l'occasion d'en parler, de le citer dans mon mémoire. Je le ferai bien entendu dans ma thèse, ça c'est sûr et certain. Mais c'est pour vraiment avoir une vision de comment telle personne fonctionnait indépendamment de son statut pour mieux comprendre justement la situation des colonisés. Et je parle, c'est sûr qu'on parle au niveau des Antilles, mais les autres départements d'outre-mer, je pense à l'Algérie, à la Tunisie ou autres, ça s'applique aussi à ces territoires-là. Donc pour moi, ce sont ces deux références-là que j'ai citées, mais c'est sûr que au cours de notre discussion, on aura l'occasion de revenir sur d'autres points. Vous allez voir, c'est très, très, très intéressant.
Merci, Michel, pour ces références. Et merci, Jordi, également pour ta référence. Ça me fait penser aussi, si vous ne le savez pas, mais en fait, j'étudie en développement durable et l'une des choses, en fait, qui m'a frappée dans mon certificat, c'est qu'on aborde, en fait, les solutions par rapport au développement durable, qu'est-ce qu'il faut faire pour atténuer nos impacts sur l'environnement, économie circulaire, tout ça, tout ça. Et on ne parle jamais du début finalement de la détérioration de la durabilité finalement de la détérioration du système de l'environnement pardon et en fait c'est ça on ne parle pas de d'où ça vient. C'est comme si ok c'est là, on sait que le temps est compté, que on vit une crise environnementale, que on sait qu'il y a des problèmes au niveau du réchauffement climatique, etc. Mais on ne parle pas du début. On parle du début de à quel moment on a commencé. Évidemment, des penseurs blancs européens ont commencé à se poser des questions sur oh mon Dieu, la population va croître exponentiellement par rapport aux ressources qui, elles, continuent à croître de manière normale. Et notamment, il y a la théorie de Malthus qui dit qu'à un moment donné, en fait, on court juste à notre perte parce que à un moment donné il y aura juste une surpopulation en fait l'environnement, la terre, les ressources ne vont pas pouvoir subvenir en fait aux besoins des êtres humains puisque il y aura trop de personnes. Donc oui, on parle de ça, mais on ne dit pas à quel moment ça a commencé. Et pour moi, tout ça a commencé au moment de la colonisation, en fait. Pour moi, à partir du moment où tu vas piller des ressources dans un autre territoire qui n'est pas le tien, en plus, et que tu le fais importer, parce que c'est ça, en fait, la colonisation, comme on l'a dit, au début de cet épisode, tout est basé sur une histoire de commerce, en fait. Et donc, la base de ça, c'est on va aller chercher des ressources qu'on n'a pas chez nous pour pouvoir les exploiter et pour pouvoir s'enrichir. Et c'est de là que tout part. C'est de là l'idée de l'import-export, c'est d'aller chercher des ressources qui ne sont pas les nôtres. Puis après, évidemment, ça découle en plein de choses avec la mondialisation, etc. Mais pour moi, c'est vraiment d'où ça part, en fait. Pour moi, ce moment où le colon européen décide d'aller conquérir des territoires hors de ses frontières européennes, c'est à ce moment-là, en fait, qu'il y a comme un espèce de shift et que tout bascule et qu'on met en place un système suprémaciste, un système capitaliste, à l'époque de toute façon un système colonial, un système esclavagiste. Et en fait, je trouve que on n'en parle pas assez, on ne parle pas assez de ces choses-là, on ne parle pas assez du système dans lequel on vit qui découle clairement, selon moi, de la colonisation. Donc, je trouve que c'est vraiment important d'aborder cet aspect-là. Ensuite, on l'avait dit dans l'épisode précédent, mais on avait eu la discussion avec Jordi et Michel et on se disait que on parle beaucoup d'esclavage aux Antilles, on a des dates de commémoration de l'abolition de l'esclavage, donc le 22 mai en Martinique, le 27 mai en Guadeloupe, les deux en 1848 évidemment. Et on a ces dates-là. Maintenant, on a le 10 mai, merci Madame Taubira, pour le célébrer en France hexagonale également. Mais c'est comme si on sait qu'il y a eu de l'esclavage, mais on veut pas parler de la colonisation. Parce que encore une fois, en 2022, on entend encore des choses comme la colonisation, ce n'était pas non plus un crime contre l'humanité. Bonjour Valérie. C'est tous ces aspects-là qui, pour moi, je trouve assez effrayants de vouloir éviter en fait de parler de ça. C'est-à-dire que, ok, oui, bon, faut reconnaître qu'il y a eu de l'esclavage, on le sait, donc on parle de ces termes-là, on met des statues de gens qui se sont défaits de leur chaîne, on parle des nègres marrons, etc. Mais on veut pas parler de la colonisation et de cet aspect commercial, de cet aspect d'exploitation des êtres humains. C'est comme si, oh non, on veut pas trop en parler. Et puis regardez, l'avantage, c'est qu'on vous a ramené la civilisation et puis que ben aujourd'hui, vous êtes des territoires français. Donc voilà tout ce que j'avais à dire sur ce sujet. Je vous laisse continuer là-dessus.
Waouh, Adeline, mais t'as dit des choses tellement intéressantes, juste... Là, c'est vraiment bien, ça me fait penser à plein de choses. Et je trouve que tu as raison qu'il y a quelque chose dans le fait qu'on n'en parle pas assez, que c'est un commerce. Et puis qu'en fait, c'est à la base du système actuel économique qu'on connaît du capitalisme. Et puis je pense qu'on est tous capables de faire un lien avec l'esclavage et puis le système dans lequel on est actuellement. Et puis c'est pas nouveau non plus, et puis quand on sait que ben, des personnes sont payées très peu, et puis qu'on a d'autres qui sont payées des sommes astronomiques en étant dans la même entreprise, mais tous ceux qui, on va dire, en bas de l'échelle à chaque fois se retrouvent, ben, le parallèle est facile à faire avec l'esclavage et même la colonisation, donc c'est vraiment intéressant, et puis moi ça me fait réfléchir aussi sur, quand on parle pas de système pour s'enrichir, parce qu'on a l'impression que c'était pas ça non plus, c'était juste un commerce, on n'avait pas de sucre en France, il fallait bien un endroit où on trouve du sucre, on a trouvé les Antilles où c'était facile de faire du sucre, et puis c'est pour ça qu'on l'a mis en place. Non, il y avait vraiment l'idée de s'enrichir derrière, et quand on ne fait pas ça, ben on ne dit pas ben comment étaient considérées les personnes qui étaient esclavages. Je disais, ben elles étaient considérées comme étant des personnes ayant la même valeur qu'un meuble, puisqu'elles n'étaient pas payées, et puis pendant ce temps, nous, on s'enrichit. Donc, on sait c'est quoi accorder de la valeur à quelqu'un, parce qu'on sait ce qu'on recherche en voulant s'enrichir. Mais justement, ben, comment est considérée la personne qu'on met en esclavage, qu'on ne paye pas et qui fait tout le travail pour nous au final? Ben, on le considère comme juste en étant un objet, comme les machines qu'on utilise maintenant pour traiter le champ. Donc moi, c'est à ça que ça me fait penser quand on ne parle pas de commerce. Et quand tu dis que c'est la base du système économique actuel, moi, je dis aussi que c'est la base du système politique actuelle, parce que quand on entend parler les politiciens des Outre-mer, coucou Marine, elle dit les Outre-mer, c'est une grande richesse pour la France. Donc là, oui, on est d'accord que les territoires apportent une grande richesse à la France, comme avant, mais les personnes qui sont dessus, comment on les considère? Parce que quand on dit les Outre-mer apportent une richesse à la France, moi, j'entends pas la population dans cette phrase-là. Et justement, donc ça donne encore l'impression qu'on appartient à quelqu'un, genre, les territoires nous apportent de la richesse, mais bon, ceux qui sont dessus, c'est pas grave. Et ça donne vraiment cette impression-là d'appartenir à quelqu'un, et c'est vraiment désagréable. Et puis pour se construire d'un point de vue identitaire, c'est vraiment pas facile. Donc là, on est déjà en train de toucher à un premier traumatisme du système d'oppression qui a eu avec l'esclavage et la colonisation, ben, le traumatisme d'avoir été considéré comme un meuble, d'avoir retiré toute forme d'humanité. Et j'avais autre chose à dire, mais... Ah oui, et ça me fait penser aussi, désolé, mais que... En plus d'être des biens meubles, mais après, ça a été des personnes à éduquer. Comme tu as dit, ah, la colonisation vous a quand même donné des choses positives. On vous a donné l'accès à la scolarité, par exemple. Il y avait encore cette idée, ben, on vient éduquer, on vient sauver, on vous fait des routes, on vous fait ci, on fait des connexions entre les villes, on vous met l'électricité. Donc, il y a encore... Et puis, quand Michel disait le colon colonisé, ben, qu'on se met à la place du colonisé, un, j'ai été un bien meuble. Et puis deux, j'ai été quelqu'un à éduquer qui savait rien, qui était sauvage et puis qui avait aucun savoir et tout ça. Donc voilà à quoi ça me fait penser. Et Michel, je te laisse, j'ai beaucoup parlé.
Non, Jordi, c'était super. En fait, vous avez dit tellement de choses, je sais pas sur quoi trop rebondir, mais il est clair que dans tous ces aspects, donc on a vu l'aspect commercial, etc., et puis l'impact justement de la traite négrière dans le système économique mondial, disons les choses. Je pense qu'il y a vraiment l'aspect éducatif, en fait, qui revient, mine de rien, dans nos conversations. Que ça soit dans nos familles ou dans le système scolaire national, il y a certains éléments qui ne sont pas abordés. Je pense, hein, très sincèrement, hein, que c'est voulu, notamment au niveau de l'éducation nationale, puisque tout est fait pour maintenir la population dans un certain angle d'idées, d'esprit, etc., et de réflexion. Mais ça me permet de dire justement à nos auditeurs qu'il est important de s'instruire en dehors du système scolaire national. Il faut faire des recherches, il faut aller fouiller. C'est pour ça que justement, au cours de nos conversations, on prend justement l'opportunité de vous donner des références qu'on va mettre aussi sur le site, sur la page Instagram, etc., pour que vous puissiez aller découvrir qu'est-ce qui a été dit sur le sujet. Parce que ce sont justement des thèmes et des thématiques qu'on n'aborde pas dans le grand public. Pourquoi justement? Je le dis tout le temps, le savoir est une arme. Quand on connaît son histoire, quand on est en mesure de savoir qui on est, d'où on vient, ça nous permet après de savoir qu'est-ce qui est bon pour mon île, pour mon territoire. Est-ce que je veux être indépendant? Est-ce que je veux rester en relation étroite avec mon ancien colonisateur, etc.? Ça va très loin. Et justement, ma thèse parle de ces problématiques-là, même si je ne suis pas là pour régler les problèmes, ce n'est pas ça le sujet, mais c'est pour mettre en lumière certaines thématiques. L'aspect économique de la colonisation, on en parle très peu. Et pourtant, il y a énormément de choses à dire. Je le dis tout le temps aussi. Alors peut-être que je ne sais pas si je ne connais pas suffisamment d'auteurs francophones, mais il est clair que l'économie, la colonisation, il y a un lien étroit. Je pense à un auteur qui s'appelle Thomas Piketty, je crois. Il a démontré justement un peu le système colonial qui existait encore aux Antilles françaises, un peu comment la France gère ses anciennes colonies. Je dis « anciennes colonies » entre guillemets, mais bon, la réalité est tout autre. Mais au niveau des auteurs anglophones, vous avez d'innombrables auteurs. Là, je vous ai cité Eric Williams comme exemple. Mais il y a énormément d'auteurs caribéens qui parlent de cet aspect-là. Ça montre encore une fois que aussi au niveau du monde académique francophone, franco-français, nous sommes en retard. Est-ce que c'est parce que on ne veut pas aborder le sujet parce que c'est trop sensible? Est-ce que c'est voulu ou tout simplement ça n'intéresse pas? Je ne sais pas. Mais il est clair que pour nous, pour façonner notre identité, il faut passer justement par des sujets qui fâchent et qui dérangent. Et il est clair que l'aspect économique et commercial de la colonisation, pourquoi justement on a établi la traite négrière, il faut en parler.
Oui, je suis vraiment d'accord avec toi et merci pour tes références, toujours on point. Mais en fait, j'ai l'impression de mon point de vue que c'est vraiment paradoxal parce que d'un côté, on te parle beaucoup du commerce triangulaire à l'école. On insiste là-dessus, puis comme on l'a dit dans l'épisode précédent, on utilise des beaux mots, des belles phrases de l'exploration, de la découverte. C'était des gens qui étaient à l'aventure. On parle quand on décrit Christophe Colomb et autres, on les décrit vraiment comme limite des grands hommes, en fait, qui étaient des aventuriers dans l'âme, qui ont découvert le nouveau monde. Donc il y a vraiment cet aspect de ils ont apporté quelque chose vraiment de primordial, que c'est comme si ça a été un tournant dans l'histoire de l'humanité, parce qu'il y a clairement un avant un avant Christophe Colomb, un après Christophe Colomb, mais du coup tout ça est enjolivé, tout ça est vraiment comme tu dis, Michel, on veut pas en parler, c'est comme s'il y a des choses on n'a pas envie de creuser, donc on reste à la surface, on parle de « ok, bon, ça a été fait ». Puis en fait, j'ai limite l'impression qu'on fait ce chapitre en histoire, on l'étudie parce que c'est vraiment obligatoire et parce que il y a… de toute façon, on est là, nous, on est des descendants d'esclaves, donc il y a cette chose qu'on ne peut pas nier, tu vois, ils ne peuvent pas nier, dire que non, on n'est pas des descendants d'esclaves, qu'on est juste arrivés par miracle ou ce genre de choses, donc… C'est comme si ils sont obligés de raconter ça, mais du coup ils le font vraiment de manière subtile, sournoise, qu'on se dise bon ben d'accord, ok, ça existait, mais ça n'existe plus, et puis ça a été aboli. Surtout, vraiment, ils insistent sur oui, mais regardez, ça a été aboli, hein. Il y a les dates, l'abolition, ça n'existe plus. Donc voilà, on est passé à autre chose. Vous n'êtes plus des colonies, vous n'êtes plus des esclaves. Donc voilà, maintenant. On a enterré la hache de guerre, sauf que non, finalement, on se rend compte quand on fait des recherches, comme tu dis, Michel, que c'est bien plus profond que ça et que ça a été une période extrêmement violente et que toute cette violence s'est répercutée pendant des générations et des générations et ça se répercute encore aujourd'hui. J'anime un autre podcast du nom de Noir et Femme et j'ai fait un épisode sur la mère célibataire, donc en gros la femme peut-on-mitant, puisque ma maman étant antillaise de toute façon, c'était une femme peut-on-mitant. Et lorsque j'ai fait cet épisode, j'ai fait des recherches donc du coup sur la femme peut-on-mitant et je suis tombée sur un excellent article qui est paru dans Pluton Magazine, écrit par Corinne Mincé-Caster, qui est un dossier qui s'appelle donc Origine de la femme peut-on-mitant, évolution et limites. Et en fait, dans ce très très bon dossier, elle cite beaucoup de références, mais notamment elle cite Édouard Glissant et son livre Le discours antillais. Et elle parle notamment du mythe du viol fondateur. Et donc elle cite Édouard Glissant en disant. Dans l'univers absolument fou du bateau négrier, là où les hommes déportés sont annihilés physiquement, la femme africaine subit la plus totale des agressions, qui est le viol quotidien et répété d'un équipage de marins rendu dément par l'exercice de leur métier. Après quoi, au débarquer sur la terre nouvelle, la femme a sur l'homme un inappréciable avantage, elle connaît déjà le maître. Donc là déjà, moi dans ce passage, ok, j'ai réalisé que avant même de débarquer dans les colonies, sur les territoires, la femme a déjà ce rapport extrêmement violent avec l'homme blanc, avec le colon. Ensuite, elle cite un autre passage qui dit « La famille en Martinique est une anti-famille. accouplement d'une femme et d'un homme pour le profit d'un maître. C'est la femme qui a murmuré ou crié « Mangez-t'es, pas féiche, poule esclavage. La terre pour être stérile, la terre pour mourir. » Et donc, en fait, on se rend compte que la femme, très vite, elle a développé cette résistance, cette volonté de ne pas vouloir enfanter d'autres futurs esclaves afin qu'ils ne soient pas dans les mêmes conditions qu'elle. Et donc, on se rend compte que finalement, ben, cette résistance, cette résilience, c'est un des traits de caractère de la femme peutomitan, et que c'est une des choses qui fait que la femme antillaise est connue pour être résistante, pour être forte. Il y en a bien d'autres dans le dossier, mais je vais pas vous citer tout le dossier. Mais moi, personnellement, quand j'ai lu ça, j'ai juste halluciné, parce que je me suis rendu compte qu'on parle de ces choses-là comme si c'était rien. Oh, on connaît la femme potomitan, la femme antillaise qui est vraiment résistante, ce genre de choses, mais c'est quelque chose qui, c'est un traumatisme qui vient de l'esclavage, en fait. Pareil, la famille aux Antilles, l'histoire de justement, donc, de la femme potomitan, et de l'autre côté, ben, l'homme qui est absent. C'est le code noir. Allô? En fait, l'esclavage, c'était pas juste l'exploitation dans les champs de canne à sucre, etc. Non, c'était établi, c'était légalisé. Il y avait tout un code. Il y avait le code noir qui interdisait justement, donc, à l'homme noir d'avoir toute autorité sur ses enfants, entre autres de toutes les choses régissait le code noir. Mais tout ça pour dire que c'était vraiment régi, c'était tout un système qui était mis en place. C'était pas juste des personnes qui veulent en exploiter d'autres, etc. Non, tout ça, c'était un système vraiment rodé, mis en place et pensé, en fait. Et on parlait aussi d'intentionnalité. Il y avait aussi cet aspect-là, notamment à travers la religion. Et regardez aujourd'hui la Guadeloupe, la Martinique. Je n'ai pas le chiffre exact, mais je dirais qu'on est à plus de 70%, voire 80% catholiques, chrétiens. Donc, quand on me dit des choses comme « Ah, c'est du passé », non, c'est pas du passé, parce que tout ce qui s'est passé pendant cette période-là a encore des répercussions aujourd'hui.
Waouh, vous êtes vraiment exceptionnel, parce que tout ce que vous dites, là, j'arrête pas de prendre des notes. On est en podcast, on voit pas qu'est-ce que je fais, mais je suis en train de prendre des notes de tout ce que vous dites, parce que c'est vraiment intéressant. Et je sais même pas par où commencer là pour rebondir à ce que tu viens de dire, Adeline, et puis toi aussi, Michel. Je vais essayer d'y aller avec le flow, et puis on va voir qu'est-ce que ça va donner. Mais moi, déjà, je trouve ça vraiment intéressant. Déjà, le dernier point que tu apportes, et puis je ne vais pas revenir dessus parce que tu l'as vraiment bien expliqué, et puis ça montre très bien en quoi là, il y a un traumatisme, et puis en quoi ça a des répercussions encore sur nous aujourd'hui. La place de la mère dans la famille antillaise, la place du père également. Et moi, ça me fait me poser la question, mais pourquoi le mettre dans le code noir, ça? Pourquoi spécifier qu'un homme ne peut pas avoir autorité sur son enfant, quand on sait que la fameuse civilisation occidentale dont ils sont fiers, et quand on sait aussi que les psychanalystes qui ont réfléchi à la question de, si on parle de la psychanalyse européenne, dit qu'il n'y a pas de société matriarcale. Il n'y a que des sociétés patriarcales. Donc, sachant ça, moi, je pose la question de pourquoi devoir marquer que l'homme ne peut pas avoir autorité sur ses enfants. Donc, en posant la question, j'ai un peu la réponse aussi de l'intention de vouloir détruire des personnes, de vouloir les traumatiser, puis les casser. J'ai le mot en anglais, je l'ai dit en français, mais les casser, et puis ça se casse de génération en génération. Donc, je ne peux pas croire qu'il n'y avait pas cette idée-là derrière le fait de marquer sous le code noir qu'un homme ne peut pas avoir autorité sur ses enfants. Donc, ça, c'est une première chose. Et une autre chose que tu as dit, Adeline, qui était vraiment intéressante, c'est l'histoire. Genre, il faut oublier, ah, c'est bon, ça s'est passé, Et je voudrais vous faire part d'une citation de Marcus Garvey. Elle est en anglais, je vais essayer de vous la dire en français. C'est qu'une personne qui n'a pas la connaissance de son passé historique, de ses origines et sa culture, est comme un arbre sans racines. Donc, pourquoi demander à ces personnes-là d'oublier leur histoire? Ah, ça s'est passé. Ah, on n'a pas besoin d'en reparler. Quand on sait que c'est ça qui est à la genèse même d'un individu. Donc, moi, ça me fait penser à ça quand tu dis, oui, il faut oublier tout ça. Et là où ça m'a emmené, in fine, c'est que quand on a parlé de colonisation, on disait qu'on ne parle pas souvent de colonisation. Et puis, c'est comme s'il y a une sorte de choses non avouées que, bon, ben, on va quand même dire que ça nous a quand même apporté des choses positives. Et là, je me dis que non, parce qu'on ne voit pas le génocide culturel qu'il y a derrière la colonisation. Et on ne voit pas non plus le processus de francisation qu'il y a à travers la colonisation. Et puis, quand on arrive là, ben, quand on est capable de parler de génocide culturel, mais là, on voit un peu plus où la colonisation fait mal. Et pour donner un exemple, et puis ça revient aussi à ce que tu disais, Adeline, sur la place du père. Et puis quand je parle de francisation, c'est ça. On sait qu'en France, par exemple, au temps des rois, le nom se transmettait aux garçons. Et puis c'était le nom du père qu'on prenait. Et puis il y avait tout un système avec la royauté et compagnie. Bref, tout le monde connaît l'histoire, cette histoire. Et là où j'en viens, c'est ben par rapport à tout ce que tu dis, ben la femme potomitan, en fait, il n'y a pas tout ça qui a été pris en compte dans la construction d'une société entière, puisque quand il faut forcément prendre le nom du père quand tu as un enfant et puis que tu, au final, ce père-là, tu ne le vois jamais, quel sens ça fait pour les personnes? Et puis quand tu sais que, ben, en tout cas, si on parle de la société martiniquaise ou guadeloupéenne, commence avec la période de l'esclavage, quand on dit ça, ben pourquoi justement après mettre en place des lois qui font qu'on donne le nom du père quand on sait juste tout avant tout ce que vous avez fait pour détruire le père? Voilà un peu tout où ça m'a emmené, tout ce que vous avez dit. C'était vraiment intéressant. J'ai les idées qui partent dans tous les sens. Mais merci beaucoup pour tout ce que vous avez apporté.
C'était super intéressant. Et j'aimerais rebondir aussi sur justement toutes les questions liées à la société matriarcale, patriarcale et l'absence du père dans dans nos communautés. En fait, ça me fait penser au syndrome post-traumatique de l'esclavage qui a été développé par une chercheuse qui s'appelle Joy Degruy, j'espère que je prononce bien son nom, mais en tout cas, en fait, elle développe cette théorie-là et elle démontre comment justement l'esclavage a un impact sur nos générations. Donc, c'est-à-dire qu'elle va développer, elle va dire justement que il y a un trauma multigénérationnel, donc qui continue de se transmettre. Et par le biais de l'oppression, il y a une absence d'opportunité pour justement guérir de toutes ces blessures liées à l'esclavage, à la colonisation, et comment justement on va dire, pas se montrer, mais se valoriser au sein de la société. Et elle parle justement des questions liées à la question de la violence, il y a la question du viol aussi, la question liée au racisme systémique, racisme internalisé, etc. Et encore une fois, c'est une chercheuse américaine. Elle base ses études sur justement la communauté afro-américaine et sa diaspora. Mais je crois que ce serait important aussi de transposer sa théorie dans le monde caribéen et notamment anti-anglo-francophone pour démontrer justement que comment justement l'absence du père dans nos familles et d'autres méfaits de la colonisation ont un impact sur nos sociétés actuelles. Je crois aussi, et c'est important de le souligner, tout ce qui se passe actuellement aux Antilles, les grèves à répétition, la relation tendue qu'on a avec la France, c'est lié à cela. C'est lié à la colonisation, à ses méfaits. Étant donné justement, parce qu'on parle d'identité, c'est le but de ce podcast, étant donné que nous ne sommes pas en mesure de nous connaître, Parce que le colonisateur a fait tout un travail justement d'aliénation, d'oppression, et que, on ne le dit pas souvent, mais la société caribéenne est basée sur des questions de viol, de violence. Comment nous sommes en mesure, après, d'établir une société guadeloupéenne martiniquaise comme il se doit? On n'est pas en mesure déjà de se connaître. Donc, a fortiori, quand on rajoute tous ces éléments-là, et donc on n'arrive pas à guérir de cela, et donc on arrête justement le processus de transmission de ce gène, de ce syndrome-là à nos enfants et petits-enfants, il est clair qu'on va continuer de voir que nos sociétés ne sont pas construites sur des bases solides. Les rêves à répétition, les problèmes liés au chômage, la violence, les nombres de viols qu'on trouve, notamment au sein des familles, donc l'inceste, etc. Toutes ces questions-là sont liées à cela. Mais on fait fi de ces questions-là, on se demande pourquoi ça arrive, pourquoi il y a autant de violence, etc. Mais il y a une base, et ça part de là, tout simplement.
Hey Michel, j'ai envie de t'applaudir parce que c'est exactement ça. Et puis, je le répète souvent pour écouter les nouvelles en Martinique, c'est toujours des questions. Ah, mais pourquoi il y a autant de violence? Les jeunes n'ont plus la notion de la vie. Ah, pourquoi nos jeunes partent, ils ne reviennent pas? Mais tout ça, c'est rattaché à notre histoire. Et puis, je ne comprends pas pourquoi ce lien n'est pas fait. Et pour moi, s'il était faible, justement, on pourrait trouver les bonnes réponses, justement. Mais pourquoi nos jeunes pas? Pourquoi, ben justement, ils peuvent pas investir un territoire qui n'est pas à eux, comme on avait dit dans l'épisode précédent? Pourquoi il y a autant de violence? Ben oui, justement, quand on sait qu'on a une famille fragile, ben il y a plus de chances de tomber dans la délinquance. Donc, merci beaucoup, Michel, pour ce dernier partage que tu nous as fait. Moi, je trouve que ça résume assez bien tout ce qu'on s'est dit là. Et puis, je ne sais pas si vous avez des choses à rajouter, mais pour moi, c'est vraiment bien. J'ai juste envie de vous applaudir parce que vous avez été magnifique.
Je pense que ça a été un épisode déjà plus long, mais parce qu'il y a vraiment énormément de choses à dire là-dessus. Et moi, je voudrais juste revenir, et ça va être le mot de la fin, mais juste revenir justement sur l'aspect des violences, notamment sexuelles, mais aussi de la violence conjugale. Mais on parlait aussi de l'inceste, et pour le coup, c'est vraiment un fléau aux Antilles, l'inceste, et pas qu'aux Antilles d'ailleurs, dans les Caraïbes, Martinique Première avait fait un article par rapport à ça, parce qu'il y avait une étude qui était sortie à propos des territoires de la Caraïbe, je ne sais plus quelles îles exactement, mais qui recensait en fait vraiment un taux d'inceste assez incroyable. Et rien que pour la Martinique, je ne connais pas les chiffres de la Martinique, mais de la Guadeloupe, pardon, mais pour la Martinique, on recense que 10% de la population aurait subi de l'inceste. C'est énorme. Et ça, c'est juste pour les cas déclarés. Et c'est quand même des chiffres exorbitants. 10%, c'est énorme, sachant qu'en plus, ce sont des territoires de moins de 500 000 habitants, même moins de 400 000 habitants. Donc, c'est quand même quelque chose d'assez élevé. Et surtout que finalement, en fait, il y a aussi cet aspect de l'inceste, mais qui est banalisé. Je ne sais pas si vous avez entendu l'histoire du père d'Audrey Pulvar, qui a été... qui est décédé maintenant, mais qui a abusé de ses nièces, donc des cousines d'Audrey Pulvar, donc notamment de Karine Mousseau, je crois. C'est une dame maintenant quand même assez âgée. Je ne connais pas son âge, mais je veux dire, c'est une femme de plus de, je pense, 50 ans, 40-50 ans, mais qui, quand elle en parle, elle est en larmes, quoi. Elle en tremble, et tu sens que c'est quelque chose qui l'a traumatisée. Et c'est à quel point, en fait, y a un contraste, parce que quand tu vois, quand elle témoigne de vraiment le désarroi qui la prend quand elle en témoigne. Mais en même temps, en fait, le père d'Audrey Pulvar, je ne me souviens plus de son nom, mais c'était un grand homme politique, en fait. Et c'était un grand homme charismatique, connu du grand public, etc. Et donc, on voit vraiment que c'est pas juste une affaire, entre guillemets, de santé mentale, bien que je veux pas faire d'amalgame, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas juste une histoire de « Oh, c'est un oh, c'est parce que t'as une maladie mentale que tu pratiques de l'inceste ». Non, on parle d'une personne lambda, entre guillemets, normale, je pose des guillemets, hein, tout est relatif, mais on parle d'une personnalité normale, d'une personnalité politique, qui a pratiqué, pardon, de l'inceste, enfin, qui a abusé de ses nièces, quoi. Et donc, je trouve que cette histoire prouve à quel point c'est vraiment quelque chose de traumatique, et c'est quelque chose d'ancré et qui ne, je dirais pas qu'il ne s'explique pas, mais kind of, en fait, presque, qu'il n'y a pas d'explication rationnelle, entre guillemets, à ça, parce que c'est quelque chose qu'on se traîne depuis longtemps. Je ne sais pas si l'un de vous deux veut conclure. Je ne sais pas si, Jordi, tu as envie de rebondir par rapport à ça, mais sinon, je pense que on va se laisser là-dessus. Désolée, la note n'est pas très positive, mais... mais on doit...
Mais j'ai envie de dire une dernière chose quand même.
Vas-y.
Désolée, Adeline, j'ai envie de dire une dernière chose quand même. On verra si on le garde ou pas. Mais quand tu parles d'inceste, c'est vraiment intéressant. Et puis, oui, justement, je pense qu'on peut conclure comme ça quand même. Mais quand tu parles d'inceste, ce qui fait qu'il n'y a pas d'inceste, c'est qu'il y a une reconnaissance de génération. Mais par exemple, une personne âgée ne va pas faire des attouchements à une personne plus jeune. Donc, c'est parce qu'il y a une construction de génération et puis il y a toute cette hiérarchie de génération où, juste normalement, je mets de gros guillemets avec le normalement, mais c'est que les personnes sont amenées à interagir, on va dire, de façon sexuelle avec les mêmes personnes de leur génération, en gros. Donc, ils devraient, si on passe à travers une hiérarchie, et quand on regarde les études qui sont faites, je pense notamment à un livre qui s'appelle « Les héritiers du génocide » de Janine Altounian, qui est une psychanalyste, elle dit que le fait qu'une population ait connu un génocide entraîne des traumatismes, et dans ces traumatismes-là, on va retrouver je ne sais pas comment elle apporte exactement, mais on va retrouver une rupture entre les générations. Et cette rupture entre les générations-là, elle découle vraiment, mais d'après les études, ça découle de génocide qu'a connu une population. Donc, moi, je trouve que c'est vraiment intéressant d'avoir apporté l'idée de l'inceste. Et puis, justement, parce que ça me permet de dire que c'est encore issu, encore une fois, de ces traumatismes collectifs-là qu'on a subis. Et là où je vais finir, c'est que je vais vous inviter aussi à regarder ce qui se fait au niveau de... sur toutes ces questions-là, au niveau de... la communauté afro-américaine. Et je pense justement par le processus de francisation que je disais juste avant, on regarde de moins en moins la communauté afro-américaine, mais personnellement, je me sens plus proche d'un afro-américain que de blanc français, justement par rapport à cette histoire qui est similaire, qu'on ne se rend pas compte à quel point elle est similaire avec les afro-américains, mais ils parlent de toute cette histoire d'inceste. On entend souvent dans les séries à mon nom que m'a touché dans les séries afro-américaines. Donc, si j'invite à ça, c'est de voir comment, pour aller trouver des mots pour en parler, comment le modéliser, comment en parler après, comment en faire quelque chose de plus verbalisé, on peut se référer à ce qu'ils font aux États-Unis sur cette question-là. Et c'est comme ça que je finirai.
Vous venez d'écouter Identitèse, un concept pensé, recherché et réalisé par Michel Martineau, Jordi Bellance et Adeline Louison. Au montage, Adeline Louison. Et musique, libre de droit, par Olive Musique.